Merci d'écouter RFI. Il est 10h à Paris, 9h en temps universel.
Gaëtan Plenet.
Bonjour à tous. Le monde se remet à peine de l'annonce du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, qu'il doit aussi se préparer à l'influence à venir d'un homme dans le mandat. Elon Musk, le patron de Tesla, qui ne se cantonne plus à de simples consultations économiques. Les supporters israéliens violentés à Amsterdam mercredi soir en marge d'un match de football ont commencé à rentrer à Tel Aviv rapatriés par des vols spéciaux qui doivent se poursuivre aujourd'hui. Dans ce journal également, l'Algérie qui dément des rumeurs sur des prétendues mesures restrictives sur les échanges commerciaux avec la France. La France où le président du Rassemblement National sort son autobiographie. Aujourd'hui, on la feuillette à la fin de ce journal. Josep Borrell est à Kiev. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui devrait quitter ses fonctions le mois prochain, est arrivé ce matin pour, et c'est ce qu'il dit lui-même, sa dernière visite en Ukraine. Mais c'est aussi la première de la part d'un haut responsable européen depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Une victoire qui ne réjouit pas, on le sait, les autorités ukrainiennes qui s'inquiètent de voir l'aide militaire et financière américaine réduite en pleine guerre contre la Russie. Ça n'a pas empêché quand même le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'appeler son futur homologue. Mercredi, il a parlé avec Donald Trump, mais pas que, puisque Elon Musk était lui aussi présent pendant ce coup de fil. Une nouvelle preuve de l'influence que pourrait jouer l'homme le plus riche du monde dans la prochaine administration républicaine, et visiblement donc pas que sur des sujets purement économiques. À Washington, Guillaume Nodin.
L'influence, c'est parfois simple comme un coup de fil, comme celui entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'était mercredi, et alors qu'il parlait de leur future collaboration et de la guerre, qu'il a promis d'arrêter rapidement, Donald Trump lui a passé Elon Musk. Il est le patron de Starlink, la société qui fournit l'internet par satellite à l'armée ukrainienne, et il a déjà menacé de le couper par le passé. Cette fois apparemment pas de menace, mais cela en dit long sur l'importance d'Elon Musk dans le dispositif Trump, au-delà de son élection dans laquelle il a investi plus de 100 millions de dollars. Selon le New York Times, le milliardaire a suggéré l'embauche par l'État fédéral, y compris au sein du ministère de la Défense, de plusieurs hauts responsables de sa société de lanceurs spatiaux SpaceX, dont l'un des plus gros clients est justement l'armée américaine. Donald Trump a déjà promis à Elon Musk une mission pour étudier des pistes d'économie dans le budget fédéral. Là aussi, il est impliqué, puisque plusieurs de ses sociétés en bénéficient. Ce ne seront donc certainement pas les coupes qu'il suggérera en priorité. La bourse ne s'y est pas trompée. Depuis la victoire de Donald Trump, la valeur des sociétés d'Elon Musk a grimpé et sa fortune personnelle a augmenté de 20 milliards de dollars en quelques heures. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et concernant la guerre en Ukraine qu'on évoquait à l'instant, les États-Unis, mais sous administration Biden, ont annoncé qu'ils allaient envoyer, je cite, un petit nombre d'employés de sociétés militaires privées dans le pays. Ils s'occuperont de la maintenance technique de l'armement américain déjà là-bas, mais seront loin des lignes de front et ne participeront pas au combat sur Washington. Pour ce qui est des guerres en cours au Moyen-Orient, le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani dit espérer que Donald Trump, une fois à la Maison-Blanche, tiendra ses promesses de campagne. Lui qui s'est engagé à mettre fin au conflit dans la région. On n'y est pas pour l'instant. La guerre continue à Gaza. 14 morts ce matin après des frappes à Gazaville et à Khan Younes, selon la défense civile de l'enclave. Pendant ce temps, au Liban, l'agence officielle ANI annonce, elle, que de nouvelles frappes israéliennes ont visé hier soir la banlieue sud de Beyrouth, où l'armée israélienne avait lancé un nouvel appel à évacuer. Et puis, plus tôt dans la journée, c'est la ville de Tyr, dans le sud du pays, qui avait été ciblée. Le ministère libanais de la Santé parle d'au moins 3 morts et de 30 blessés. Et puis, en Syrie, l'agence officielle Sana évoque, elle, des aériens israéliens hier près d'Alep. Ce sont des installations militaires qui étaient visées, précise l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Israël qui poursuit ses frappes et qui rapatrie ses ressortissants aussi. Alors pas au Moyen-Orient, non, mais se violenter jeudi soir à Amsterdam, des supporters qui étaient venus dans la capitale néerlandaise pour assister au match de foot entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Avant même la rencontre, la ville était sous tension avec plusieurs incidents. Les supporters israéliens auraient notamment incendié un drapeau palestinien sur la principale place de la ville. Et puis pendant la nuit, ce sont eux qui ont fait l'objet de violences, des violences antisémites, assure Israël, ainsi que plusieurs autres pays. Et c'est donc dans ce contexte que les autorités israéliennes ont envoyé des avions à Amsterdam pour rapatrier joueurs et supporters. Correspondance à Jérusalem de Michel Paul.
C'est un pont aérien qui se poursuit exceptionnellement pour les compagnies israéliennes tout au long du Shabbat. Le rapatriement de plus de 2000 Israéliens qui étaient venus assister au match de Maccabi Tel Aviv contre l'Ajax d'Amsterdam. À son arrivée à l'aéroport Ben Gurion, le directeur de l'équipe israélienne, Ben Mansford, affirme que ce qui s'est passé est tout simplement effroyable.
Ça n'avait rien à voir avec du football, et c'est pour ça que vous êtes là. Plein de gens étaient venus voir un match de foot, mais aussi pour supporter le Maccabi Tel Aviv, Israël et l'Étoile de David. Et ils ont été jetés dans des canaux, frappés, jetés à terre. On leur a dit qu'ils étaient des moins que rien. On a nié leur judéité. C'est une très mauvaise époque que nous vivons après cette année que nous avons passée.
Hier, les autorités israéliennes ont appelé les supporters à éviter un match de basket du Maccabi Tel Aviv contre le Virtus de Bologne en Italie et surtout de ne pas arborer de manière visible des symboles israéliens ou juifs. Finalement, le match s'est déroulé sans incident. Et les basketteurs israéliens se sont inclinés face aux Italiens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué qu'il a ordonné au Mossad, le service de renseignement, de préparer un plan d'action pour éviter des violences lors d'événements sportifs. Prochain objectif, la rencontre France-Israël jeudi prochain au Stade de France. Une centaine de supporters israéliens ont prévu de faire le déplacement. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
25 morts, dernier bilan au Pakistan après une attaque dans une gare de la province du Baloutchistan dans le sud-ouest du pays. Attaque revendiquée par des séparatistes de l'armée de libération du Baloutchistan. 14 soldats pakistanais font partie des victimes. L'Algérie dément des informations, je cite, erronées et totalement infondées. Les informations d'un ex-ambassadeur de France à Alger, selon lesquelles les autorités algériennes auraient décrété des mesures restrictives aux échanges commerciaux avec la France. À Paris, on dit n'avoir aucune information sur une telle décision. Dans un contexte de tensions diplomatiques accrues entre les deux pays, cette rumeur a fait forcément peur aux entreprises françaises et algériennes partenaires. Les banques avaient même gelé les opérations d'import-export entre les deux pays, dans l'attente d'un écrit officiel de la part des autorités d'Alger. Claire Fage.
Le commerce entre l'Algérie et la France allait-il être vraiment bloqué ? L'inquiétude était à son comble cette semaine à la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française à Alger, comme le raconte son président Michel Bizac.
Depuis mardi, c'est très simple, il y avait une rumeur qui disait que toutes les opérations d'import-export étaient suspendues et les banques, par mesure de précaution, ne faisaient plus d'opérations dans l'attente d'une réaction officielle. Donc cette rumeur a enflé. Elle a inquiété des deux côtés de la Méditerranée. On a vécu 48 heures de flou. Ça a été vraiment un choc.
Soulagement pour les opérateurs économiques, le démenti du gouvernement algérien est tombé jeudi soir. Indispensable, selon le juriste Majid Boudène, pour ne pas laisser le climat des affaires se dégrader.
Quand il y a des rumeurs, il faut les démentir rapidement et il faut donner les preuves que le démenti est réel. Sinon, ça crée un climat. Et le climat peut être aussi entretenu de façon artificielle, justement pour créer de ces entraves. Et des fois, le climat peut être aussi entravant que la mesure elle-même.
Un climat plus instable depuis le net refroidissement diplomatique entre Alger et Paris pour les quelques 6000 entreprises françaises qui exportent ou ont investi en Algérie.
Ce bilan du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, il affirme que les inondations au Soudan du Sud ont affecté 1 400 000 personnes. Ils sont près de 380 000 à avoir dû se déplacer également. En France, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit avant même sa sortie, celui du président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Ça s'appelle « Ce que je cherche » et c'est disponible depuis ce matin en librairie. Un livre publié chez Fayard, propriété de Vincent Bolloré, et qui devrait bénéficier, ce livre, d'une large promotion. Raphaël Delvolvé, derrière l'autobiographie, il y a l'ambition politique d'un jeune eurodéputé de 29 ans.
L'objectif semble clair, offrir le visage d'une extrême droite ambitieuse, définitivement normalisée et plus populiste que jamais. Jordan Bardella insiste notamment sur ses origines sociales, descendant d'immigrés italiens et algériens. Il a grandi en Seine-Saint-Denis, surtout avec sa mère, dans une cité qu'il décrit comme rongée par la drogue et la violence. Se présentant comme enfant des classes populaires, il défend une union des droites façon Meloni en Italie. Jordan Bardella se définit d'ailleurs comme le chef de l'opposition. Il raconte notamment les rencontres de Saint-Denis à l'été 2023, durant lesquelles, écrit-il, il est le seul à tenir tête au président Macron, qu'il accuse de n'avoir aucune conviction. Il a aussi à cœur de répondre aux critiques sur son absentéisme au Parlement européen, ne manquant pas de raconter dans son livre des voyages en train entre Paris et Strasbourg. Évidemment, il y a des mots de reconnaissance pour sa mentor Marine Le Pen, mais le jeune Bardella publie aussi son livre au moment où elle pourrait voir sa quatrième candidature à la présidentielle sérieusement gênée par son procès pour détournement de fonds publics. Certains y verront les prémices d'une possible émancipation.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. Il est 10h10 à Paris, une heure de moins en temps universel. Restez à notre écoute.